Alors, on va aller regarder au verset 41, le chef de la synagogue. Donc, c'est un titre qui désigne pas forcément le chef de la synagogue. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Ça peut être effectivement un titre attribué à celui qui est le responsable du culte synagogal, mais pas forcément. Ça peut être aussi un titre que l'on donne aux membres éminents d'une communauté, un peu comme un titre honorifique. En l'occurrence, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que quoi qu'il arrive, ça reste une personne éminente, que ce soit le chef de la synagogue véritablement ou pas. Ensuite, verset 43, la question des pertes de sang. Parce que le sang en tant que tel, hein, c'est perçu comme le principe vital de l'homme, et donc c'est un don de Dieu. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans les Écritures une comparaison entre le vin qui est un don de Dieu et donc qui réjouit le cœur de l'homme, et on dit que ça va être comme du sang, parce que c'est quelque chose de bon. Et donc là, le sang est quelque chose de bon, sauf s'il y a une perte de sang. Parce qu'en l'occurrence, une perte de sang, c'est le signe, cette fois, d'un état d'impureté. Et c'est un état d'impureté qui en plus est contagieux. Et comme c'est contagieux, normalement, il est interdit d'avoir le moindre contact physique avec une autre personne. Parce que sinon, cette personne devient elle-même impure. Donc on voit bien toute l'ambivalence du sang. Le sang qui coule dans les veines, c'est un don de Dieu, c'est très bien. Le sang qui sort du corps de l'homme, ça devient en fait une impureté. Verset 44. La femme touche la frange de son menton, de son manteau. Alors le vêtement, le manteau en question, ça pourrait tout à fait être un talit. Donc le talit, c'est, vous savez, le châle de prière. On voit souvent dans la présentation Jésus avec un châle de prière. C'est pas, on ne le met pas que pour la prière. En fait, il peut être porté toute la journée. Au contraire, c'est bon de le porter toute la journée parce que ce châle de prière a aussi une frange que l'on appelle le tzitzit. Et le tzitzit, vous savez, c'est des différentes petites franges là, et ça vient rappeler les commandements. Donc en fait, lorsqu'on porte le châle de prière, on s'enroule dans la loi et dans les commandements. Alors, j'ai pas réussi à trouver, parce qu'aujourd'hui, si on va à Jérusalem, mais c'est pareil dans tous les quartiers ultra-orthodoxes, hein, que ce soit à Anvers, etc. On voit des juifs ultra-orthodoxes qui portent une espèce de chasuble sous leurs vêtements avec juste quatre phylactères, tzitzit, qui dépassent. Et en fait, on va dire que c'est la version casual pour le quotidien de cet habit-là. Mais je ne sais pas s'il existait déjà au temps de Jésus, et ça, je vous avoue que je n'ai pas trouvé l'indication. En tout cas, à un moment donné, c'est sûr, c'est aussi un châle de prière et c'est ce qui est le plus répandu. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est au verset 52. Tous la pleuraient, donc la jeune fille, en se frappant la poitrine. Et c'est juste pour l'expression se frapper la poitrine, parce que c'est pas. C'est bien sûr, il y a un côté image, mais c'est pas qu'une image, c'est une manière traditionnelle de se lamenter. On exprime de cette manière-là la douleur intérieure. On est dans des sociétés qui aiment beaucoup la démonstration. Dans l'Empire romain, les pleureuses, par exemple, sont très connues. Ben là, on est dans le même rapport à la mort. Il faut exprimer visuellement sa douleur. Et donc, on se frappe la poitrine. Alors, sur ces versets, j'ai une seule proposition de lecture à vous faire, mais vous allez voir, elle est un petit peu longue, et un peu complète, quoi. Ça a trait à la vie nouvelle. Parce que dans la péricope précédente, donc dans le passage qu'on a vu avant, on a dit que le démon a aussitôt reconnu en Jésus le Fils du Dieu Très-Haut. Mais les païens, eux, ils l'ont repoussé. Donc Jésus revient, il retraverse la mer, c'est ce qu'on a dit, et il arrive de nouveau en terre juive, en Galilée. Et il y a là, non pas un homme infesté d'esprit impur qui se présente à lui, mais aussitôt, quelqu'un vient le voir, c'est le chef de la synagogue, c'est un chef de synagogue en tout cas, et c'est donc un dignitaire. Et il ne fait pas que venir voir Jésus, il se jette à ses pieds. et il lui demande la guérison de sa fille. Et donc là, on voit tout l'effet qui a été, l'effet littéraire, hein, qui a été voulu par l'évangéliste. Il y a une grandeur qui est donnée à Jésus, qui est une grandeur véritable, mais qui est amplifiée par le style. On voit le parallèle entre le premier côté de la mer, on va dire, le côté païen, et le côté juif. Et donc on voit que tout le monde, finalement, finit au pied de Jésus. Et puis, même si c'est un passage en extérieur de la Galilée qui a été bref, on voit que quand Jésus revient, ben en fait, on a entendu pour l'instant plusieurs fois qu'il prêchait la bonne nouvelle, on voit que ça porte du fruit, puisqu'il y a quand même, dès qu'il arrive, quelqu'un qui vient lui demander la guérison. Donc le père présente la situation de sa fille, et il précise qu'elle a 12 ans, donc elle est tout juste en âge de donner la vie. Mais en même temps, elle s'apprête à mourir. Et tout le récit est fait comme ça de contraste. Alors que à ce moment-là, le lecteur s'attend évidemment à voir Jésus guérir la jeune fille, eh bien, Saint-Luc va changer la focalisation de la narration. Cette fois, on va plus s'intéresser finalement à la jeune fille, on va s'intéresser à une autre femme, à une femme qui a des pertes de sang. Elle a des pertes de sang depuis 12 ans. Et donc, on voit bien comment est-ce que Luc, eh bien, met aussi en avant que les deux récits sont liés. Ils s'imbriquent, bien sûr, mais ils vont s'éclairer l'un l'autre, ils sont liés. Et donc, on l'a dit, si le sang qui coule dans les veines est un don de Dieu, un symbole de vie, la perte de sang, pendant et en dehors du cycle féminin, c'est un symbole de mort, et ça cause l'impureté. Et donc, une femme en état d'impureté, on l'a dit, ne devrait en aucun cas se trouver dans une foule, et encore moins toucher quelqu'un. Or, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle touche la frange du manteau de Jésus. Donc, non seulement la femme commet un péché, mais plus encore, normalement, elle doit rendre impur Jésus. Celui vers qui tout le monde va, celui qui est le maître, elle le rend impur. Enfin, quand on dit elle le rend impur, c'est faux. Parce qu'ici, le mouvement, on l'a vu, il est inverse. Et c'est bien pour ça que, même si ça peut paraître surprenant, Saint-Luc précise, une force sort de Jésus. Et donc, c'est ce mouvement-là qui est inverse. Ce n'est pas l'impureté qui entre en Jésus, c'est une force qui sort de Jésus. Et cette force, elle va guérir la femme. Et donc, en guérissant la femme, elle va relever la femme de son impureté et de toutes les contraintes qui sont liées à son état. Donc finalement, elle est tout à fait à sa place au milieu de la foule. Et c'est là que la précision de la frange du manteau, des tzitzit, va trouver toute son importance. Parce qu'en réalité, la femme, qu'est-ce qu'elle a touché? Elle a touché la loi de Dieu, elle a touché les commandements. Et ces commandements, qui est-ce qui les porte? C'est Jésus. Donc, à travers la loi, elle atteint le Christ. Tout comme la loi devait permettre au peuple hébreu de parvenir à la terre sainte, à la terre promise, et donc de parvenir à la promesse de Dieu. Et donc là, en touchant les commandements, elle atteint le Christ. On a lu, hein, elle était réduite à vivre dans la pureté, parce qu'il n'y avait pas de solution. Elle a été voir des médecins, elle a dépensé sa fortune, aucune solution, pas de remède. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la femme s'en remet pleinement à la loi telle que Jésus l'interprète, c'est-à-dire une loi qui ouvre à la vie. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour cette femme qui est à la marge de la société pour réintégrer la société. Et elle peut désormais aller en paix, c'est ce que Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et si vous vous souvenez bien, c'est exactement ce que Jésus a déjà dit à la femme pécheresse au chapitre 7 au verset 50. Alors je ne reviendrai pas, on avait détaillé comment est-ce qu'on passait de la foi à l'espérance et l'espérance nourrissait ensuite la charité. C'est exactement le même mouvement. Et à chaque fois, il s'agit de deux femmes qui avaient une impureté que Jésus a levée. Bon, maintenant que Jésus a guéri la femme qui a des pertes de sang, s'il n'est pas trop tard pour elle maintenant pour rejoindre la communauté, peut-être qu'il est trop tard, en revanche, pour la jeune fille. Parce qu'on a entendu que les serviteurs viennent et disent elle est morte, c'est plus la peine d'importuner le maître. Ben en fait, non. Il n'est pas trop tard. Il faut croire que, toujours dans l'idée de la foi, une foi véritable va permettre qu'il ne soit pas trop tard. Parce que la jeune fille, Jésus dit, elle n'est pas morte, elle est endormie. Et d'ailleurs, il lui dit, éveille-toi. Et elle revient à la vie. Et on voit comment est-ce que Jésus ne dramatise pas la mort. Il ne fait pas de la mort une fin. C'est juste un passage. Passage du sommeil au réveil. Donc voilà ce qu'on peut retenir, je crois, comme enseignement de ces deux récits qui sont imbriqués. D'abord, Jésus est maître de la loi. Parce que comme il est l'un de la Trinité, il est à la fois le législateur et en même temps l'interprète de la loi. Et donc on voit comment est-ce que, comme législateur, il sait que l'esprit de la loi, c'est de permettre la liberté de l'homme et que cette liberté doit le conduire à Dieu. Et comment est-ce que, comme interprète de la loi, eh bien, cette loi qui permet de conduire à Dieu, c'est une loi qui donc crée une dynamique de vie. C'est exactement ce qui se passe dans ce récit-là. Et donc, si c'est une dynamique de vie, on voit que Jésus est aussi maître de la vie. Il accepte le contact de l'impureté, même si elle n'a pas de prise sur lui, et donc c'est toute l'idée de l'incarnation. Et Jésus offre à ceux qui ont la foi une vie nouvelle. Donc Jaïr et la femme aux pertes de sang deviennent, pour toutes les personnes qui sont présentes à ce moment-là, et bien sûr pour nous les lecteurs, des modèles d'espérance. Parce qu'il y a eu de nombreux obstacles avant de pouvoir être guéri. Il y a les années, pour la femme qui a des pertes de sang, il y a toutes les années où elle a dépensé l'argent chez les médecins sans avoir de remède et a pensé qu'elle ne pourrait pas en sortir. Et pourtant, elle garde cette espérance qu'elle en sortira et elle en sort grâce à Jésus. Et puis, pour la jeune fille, il y a comme obstacle la mort de la jeune fille. Parce que quand le père demande, elle n'est pas encore morte. Mais malgré tout, il continue à croire. C'est ce que Jésus lui dit. Crois et elle sera sauvée. Et nous, normalement, on n'est pas surpris. Parce que même si pour eux ça pourrait sembler impossible, nous, on était présents au moment de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. C'est l'ange Gabriel qui l'a dit.